matière d'introduction à ce message, j'aimerais que nous lisions ensemble tel que l'apôtre Paul faisait pour les Philippiens cette même épître. Notre sœur Madame Savard a trouvé ce merveilleux passage qu'elle nous a cité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce texte se trouve au chapitre 4 de cette épître. Aux Philippiens, verset 13, hein, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais au chapitre 1er, l'apôtre Paul, écrivant de sa prison de Rome à ses bien-aimés de la ville de Philippe, où lui-même avait été aussi en prison, vous vous en souvenez. Il avait commencé son ministère dans la ville de Philippe par un séjour en prison. Et il dit au verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, et ce que je demande ce soir, dans ma prière pour vous tous, parce que vous êtes tous dans ma prière, j'ai tellement senti qu'il y avait parmi vous des gens malheureux, pas pleinement heureux. Et j'avais presque mal en vous disant que j'étais heureux. Parce qu'on a une souffrance pour ceux qui souffrent. Je ne voudrais pas que vous croyiez que nous sommes ici pour vous chanter des chansons quand votre cœur à vous est affligé. On ne voudrait pas non plus, quand on est amené à dire une vérité biblique, que vous pensiez qu'on vous sert cette vérité pour vous parce qu'on connaît vos circonstances. Non, nous ne les connaissons pas. Il y a plus de 45 ans que Dieu me fait la grâce de prêcher aux âmes un peu partout dans le monde. Et je puis vous dire que si je devais penser que telle personne prend cela pour elle, ben je me tairais. La grâce que le Seigneur m'a accordée, c'est que quand il me donne de parler, je ne vois personne. Parce que si j'avais dû voir les gens, je n'aurais jamais ouvert la bouche. Mais il est dit, nous ne connaissons personne selon la chair, dit l'apôtre Paul. Quand nous prêchons, nous ne connaissons personne selon la chair. De sorte que si quelqu'un se sent concerné, eh bien qu'il sache que c'est l'Esprit qui parle, pas moi. Et que, au lieu de se révolter, qu'il se dit, mais je vais m'arrêter là. Je veux réfléchir, je veux penser. Alors, regardez. Dans notre cœur, il n'y a que de la compassion. Et ce que nous demandons vraiment au Seigneur, c'est ce que Paul demandait du fond de sa prison. Je demande dans mes prières. Quoi? C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Ah, on a besoin de cette vraie connaissance, hein, qui n'est pas celle que les hommes nous donnent. C'est pas la connaissance qu'on apprend dans les écoles et les hautes écoles. On apprend cette connaissance, on l'apprend au pied du Seigneur. Que votre amour augmente en connaissance. Dans la connaissance du Seigneur, justement, par qui nous pouvons toutes choses. Parce que c'est lui qui nous fortifie. Non seulement que votre amour augmente en connaissance, mais en pleine intelligence. Oh, c'est pas du tout intelligent les décisions que Madame Savard avait prises. C'était pas intelligent selon les hommes de ce monde. Elle manquait certainement d'intelligence. C'est pas vrai? Humainement, selon le monde. Mais elle avait reçu l'intelligence de qui? Elle avait reçu une connaissance de son amour. Et de cet amour-là, elle ne pouvait pas douter. Et alors, c'est quand même rafraîchissant, c'est quand même encourageant d'entendre un témoignage comme celui que nous avons entendu ce soir, alors que tout le monde se plaint des temps difficiles, de la cherté de la vie, des loyers qui augmentent, et tout, et tout, et tout. Comme si notre Père des cieux ne savait pas tout cela. Les oiseaux ne se sont pas inquiétés. Et pourtant, ils vivent aussi dans le même monde que nous. Mais les oiseaux n'ont pas de soucis. Pourquoi? Parce qu'ils ont un Père dans les cieux. Et nous prétendons que Dieu est notre Père et nous nous faisons du souci. Les oiseaux du ciel, disait le célèbre Kierkegaard, ils n'ont pas de souci. Et Jésus dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Pourquoi vous mettez-vous en souci de vous mangerez, ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtu? C'est les païens qui recherchaient ça. Mais vous recherchez premièrement le royaume de Dieu. Mettez Dieu en premier. Et tout le reste, tout ce dont vous avez besoin, vous sera donné en plus, par surcroît. Alors, ce que je demande pour chacun de vous en cette fin de semaine, c'est que votre amour augmente en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui est le meilleur. Il faut choisir. Alors, qu'est-ce qui est le meilleur? Quelle est la chose la meilleure? Alors, vous verrez que pour l'apôtre Paul, il s'est posé bien des questions. Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Est-ce que c'est que j'ai la liberté ou bien que je sois en prison? Selon le monde, qu'est-ce que c'était? La liberté. Mais selon Dieu, grâce au fait qu'il était en prison, il pouvait rendre témoignage à tous ceux qui se trouvaient en prison, et même à l'empereur, parce qu'il devait comparaître devant lui. S'il n'avait pas été arrêté, il n'aurait jamais comparu devant l'empereur. De sorte qu'il dit, mais au fond, ce que Dieu veut, qu'est-ce qui est le meilleur? C'est ce que lui veut. On demande au Seigneur que nous ayons des occasions, des possibilités de rendre témoignage, puis il nous donne une occasion de rendre témoignage. Puis nous pensons que justement, si on était dans une autre situation, on pourrait mieux rendre témoignage. Mais ce n'est pas vrai. Au fond, qu'est-ce qui est le meilleur pour nous? Il était menacé de mort. Alors il dit, qu'est-ce qui est le meilleur? Est-ce que c'est que je vive? Où est-ce que c'est que je meurs? Qu'est-ce qui est le meilleur? Ben, humainement, lui, dans sa connaissance, il dit, pour moi, vivre, qu'est-ce que c'est? C'est le Christ, hein? C'est Christ, Christ est ma vie. Puis mourir, ben, c'est peut-être meilleur, hein? C'est un gain. Mais tout de suite, il dit, ben, au fond, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois choisir. Si même ça m'apparaît meilleur d'être auprès du Seigneur, si c'est plus utile que je vive à cause de vous, ben il en vaut la peine. Alors il dit, ben je ne sais pas ce que je dois choisir. Le meilleur, c'est ce que lui voudra. Vous ne trouvez pas que c'est beau quand on arrive à ça? Au fond, le meilleur, c'est pas ce qu'on pense nous, avec notre intelligence, mais c'est sa volonté. Quand on dit dans la prière que ta volonté, et c'est Jésus qui nous a appris cela. Quand il était à genoux au jardin de l'agonie à Gethsémané, il dit, toutefois Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et quand il a pu dire cela, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, vous voyez qu'il se relève. Il se relève, lui qui était accablé, lui dont la sueur était devenue sanglante, semblable à des grumeaux de sang qui coulaient de son front sur la terre, tout à coup quand il peut dire, non ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Jésus se relève et s'effront à tous ses ennemis. Il va au devant de Judas qui va le trahir par un baiser, il va au devant des soldats qui viennent pour l'arrêter et il leur dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Qu'est-ce qui arrive? Tous tombent par terre. Tous tombent par terre. C'est lui qui domine toute la situation. Il se laisse arrêter, il se laisse lier, il se laisse conduire à la maison de Caïphe. Il y subit là tous les outrages, mais toujours maître de lui. Quand on le frappe, un soldat le frappe. Si j'ai mal parlé, ben dis-le-moi. Pourquoi me frappes-tu? Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Quand il entend Pierre qui dit à la petite servante, je ne connais pas cet homme, et qui jure, qui sacre ce que ça devait lui faire au Seigneur. Il se retourne. Qu'est-ce qu'il dit? Pierre, c'est comme ça que tu me traites? Moi qui t'ai lavé les pieds il y a une heure? Non, il le regarde. Il dit rien. Mais il a suffi de ce regard, hein, et du chant d'un coq, vous voyez, hein, les animaux. Le chant d'un coq a fait rentrer Pierre en lui-même. Il est sorti, il a pleuré amèrement, et dans les larmes du repentir, il a trouvé le pardon de son maître. Et quand Jésus fut ressuscité, Pierre, qui ne s'est pas pendu comme Judas, Pierre a osé se représenter. Et le Seigneur l'a restauré pleinement. Et l'a établi pasteur de ses agneaux, de ses brebis. Je demande que vous puissiez discerner les choses les meilleures. Afin que vous soyez purs. Ah, c'est ça. Le Seigneur est ambitieux pour vous. Il ne voudrait pas que vous soyez comme tout le monde. Les gens ne sont pas purs. Alors vous voudriez faire comme tout le monde? Ils ne vivent pas dans la pureté. Ils ne vivent pas dans la droiture. Ils ont tous les compromis possibles, même les gens dits chrétiens, même les baptisés, deux fois. Alors, mais le Seigneur voudrait que vous soyez des gens purs, pas des chrétiens au rabais, juste sauvés, hein, pourvu qu'on soit sauvés, pourvu qu'on n'aille pas en enfer. C'est ça votre salut? Non. Il voudrait que dans la vie quotidienne, vous soyez des purs. Qu'est-ce que c'est des purs? Des gens qui n'ont plus de péché? Non. Mais des gens qui vivent d'un cœur attaché au Seigneur, sans partage. Ils ont encore des manquements, nous avons encore des manquements, nous pouvons manquer de mille manières. Mais nous le disons au Seigneur, nous le confessons au Seigneur, nous revenons à lui. Comme notre Père le disait, il a été fidèle. Nous sommes infidèles bien souvent. Mais le Seigneur est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Et vous pouvez toujours revenir à lui. Lisez tous les prophètes. Le cri des prophètes, c'est « Revenez à moi, revenez à moi. Si tu reviens, reviens à moi. » C'est le cri d'un père qui vous aime et qui ne se console pas de votre absence. Lui voudrait votre présence. Il chérit votre présence. Et il dit, mais pourquoi suis-je venu et n'y a personne? Pourquoi ai-je appelé et n'y a personne qui répondit? Montrez-moi la lettre de divorce que j'ai écrite contre vous. Et personne ne peut montrer ça. Malgré que nous avons été infidèles au Seigneur, malgré que nous l'avons trompé 100 fois, il dit, c'est pas moi qui ai divorcé avec vous. Montrez-moi la lettre de divorce. On l'a pas? Ce sont vos péchés qui ont fait la séparation d'avec moi. Et c'est pas moi. Moi, je vous attends. Prenez l'image du père de l'enfant prodigue. Hein. Il est toujours là qui attend le retour de son fils. Qui regarde sur ce côté-là parce qu'il pense que s'il revenait, c'est par ce chemin qu'il reviendrait. Puis un jour, il voit un gars qui s'amène tout en alliant, mais c'est pas son fils, il l'a vu partir avec de beaux habits. Puis oui, il le reconnaît, lui, sous ses alliants. Il n'a qu'une pensée, il court vers lui. Il ne s'enferme pas dans son bureau en disant à son secrétaire, tu le feras attendre. C'est ça, hein, que nous sommes, hein. Tu le feras attendre, il est parti. Hein. Non. Lui, il s'en va sur le chemin. Il court plus vite que le fils ne revient. Il court à sa rencontre. Et il le prend dans ses bras, il le couvre de baisers. Il ne regarde pas s'il est propre, s'il s'est lavé, s'il s'est brossé les dents. Rien de tout ça, hein. Mais je ne vous dis pas de ne pas vous brosser les dents. Non, brossez-vous les dents. Et ma femme disait, c'est pas seulement une fois par jour, hein, c'est plusieurs fois par jour. Hein. Bon, ça c'est médical. Hein. Alors, mais ça aide aussi dans les ménages, ça, de se brosser les dents. Une haleine un peu plus fraîche. Il y aurait peut-être moins de divorces. Il y a tellement de ces petites choses. Choisissez chaque jour de vous brosser les dents. C'est un choix chrétien, ça. Vous lavez aussi. Le Seigneur aime les gens propres. Il a parlé de cela. J'ai même parlé de se parfumer quelquefois, quand vous jeûnez. Lavez-vous, rasez-vous. Mais tout cela, qu'est-ce que c'est qui est le meilleur? Mais ces choses-là qui sont tout à fait extérieures, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça doit entrer en vous, ça doit entrer dans vos mœurs, dans vos habitudes. Ma femme disait à l'un de nos enfants, vois-tu, on a ou bien des bonnes habitudes ou des mauvaises. Alors autant qu'il y en ait tout de suite des bonnes. Et c'est vrai. Alors acceptez d'avoir des bonnes habitudes, puis après, ça vient tout seul. Hein. Mais il faut s'habituer. Alors habituez-vous à des choses bonnes. Demandez au Seigneur qu'il vous donne cette sage intelligence. Dans un pays sans bon sens, ayez du bon sens. Hein. Moi, ça me frappe toujours et ça m'émeut toujours. Quand j'ai une conversation avec quelqu'un du Québec, tout à coup, il raisonne, il avait une toute autre idée, puis tout à coup, il dit, ça a du bon sens ce que vous dites. Hein, c'est une réflexion qu'on entend souvent au Québec. Ça a du bon sens. Et puis parce qu'ils remarquent au fond que ça a du bon sens, ils abandonnent leur idée, et puis ils prennent ce qu'on leur dit. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, ça. Le bon sens vient de la parole de Dieu. Si vous lisez les proverbes, il est dit que quand on lit les proverbes, on acquiert du bon sens, de la sagesse. Et c'est pourquoi je dis que moi j'aimerais qu'on apprenne aux enfants, à nos enfants, qu'on leur apprenne par cœur les proverbes. Qu'ils mémorisent les proverbes. Parce que s'ils pouvaient mémoriser les proverbes, eh bien, le Saint-Esprit dans leur vie quotidienne le rappellerait ces textes, il y a un tas de choses qu'il ne ferait pas. Et il y a un tas de choses qu'il ferait, et il serait béni parce que il serait conduit par la parole. Je vous le disais, la parole devient une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle nous donne une conviction, et c'est ça qui nous permet de choisir entre deux choses. On n'a pas besoin de tirer au sort, on n'a pas besoin de jouer à pile ou face pour savoir ce qu'on doit faire. On est inspiré par la parole. Eh bien, que vous soyez purs et irréprochables, irréprochables. Vous voyez ce que le Seigneur voudrait pour vous? Qu'on ne puisse pas vous faire des reproches. Ça vous ennuierait. Hein? Si on ne pouvait pas vous faire des reproches, si on pouvait vous citer en exemple, vous dire, bien, faites comme lui. Mais l'apôtre Paul est vidé d'une certaine manière où il pouvait dire, je voudrais que vous soyez tous comme moi. C'est quelque chose, ça. Mais il était prisonnier, alors il dit, je ne vous souhaite pas d'être en prison, mais autrement, je voudrais que vous soyez comme moi, hormis ces liens. Que vous soyez irréprochables pour le jour de Christ. Le jour de Christ, c'est le jour où le Seigneur sera manifesté. Et vous savez, le jour où lui sera manifesté, quelle sera sa joie? Vous la savez, la joie de Christ? Quand lui sera vu du monde entier, qu'est-ce qu'il voudra montrer? Comment? Il voudra montrer ses fils, ceux qu'il a rachetés, ceux qu'il a sauvés. C'est là ce qu'il attend. Au jour de Christ, il dira, le voilà, c'est lui qui vous montrera. Et qui dira, bien, voilà ce que j'ai pu produire en lui, parce qu'il a été une plante qui s'est laissée cultiver. Voulez-vous vous laisser cultiver par le Seigneur? Voulez-vous être le vase dans lequel le Seigneur mettra toute sa vie? C'est cela qu'il voudrait. Pour qu'un jour il puisse dire, eh bien voilà, j'avais besoin d'une vie et il a été cette vie-là. Vous avez été cette vie. Vous, ma sœur, mon frère, j'ai pu réaliser en cette personne, dont en sa chair mortelle, j'ai pu y manifester ma vie. Vous savez, le Seigneur, il peut manifester sa gloire dans les vaches, mais il voudrait aussi manifester sa gloire en vous. Moi, je sais qu'il peut manifester sa gloire dans tous les animaux. Mais est-ce qu'en vous, est-ce qu'il peut se manifester? Il peut parler par une ânesse. Il peut se servir de vase pour conduire son arche dans la bonne direction. Vous savez cela, hein, dans l'histoire de la Bible. Je connais bien la vallée de Beth-Shemesh, hein, et je vois cela quand l'arche était chez les Philistins, puis que les Philistins attrapaient des hémorroïdes parce qu'ils avaient l'arche. C'est pas très intéressant. Hein. Ils avaient de la peine à marcher. Alors, ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Ben, il faut que l'arche en aille, qu'elle aille dans son pays. Alors bon, ils ont fait des hémorroïdes en or, ils ont mis ça dans l'arche, et puis ils se sont dépouillés, ils ont fait des souris en or aussi, parce qu'ils avaient des fléaux, des hémorroïdes et des souris, et qui mangeaient leur récolte, alors ils ont tout mis ça dans l'arche, et puis ils ont fait un chariot neuf, les Philistins évidemment, ils ont mis l'arche dessus, puis ils ont attelé deux vaches, puis ils les ont laissés partir. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont trouvé la bonne direction, elles sont allées droit à la frontière, en beuglant. Voilà les vaches du Seigneur. Ils se glorifient par des vaches qui savent le chemin, si nous on est assez vaches, on ne peut pas savoir le chemin. C'est vrai ou c'est? C'est vrai. C'est vrai, mes amis. Je crois qu'on peut se parler le vrai langage. Hein. Les vaches connaissent le chemin. On doit aller là. C'est beau la parole. Je manque cette parole. C'est beau, oui. Puis l'ânesse de Balaam, lui, il est en train de la battre. Puis elle, parce qu'elle voit l'ange qui a l'épée qui va le percer. L'ânesse aime tellement son Balaam qu'il la bat, pourtant, elle se couche. Il la bat encore plus fort. Puis elle lui parle. Est-ce que j'ai l'habitude de te traiter ainsi pour pas que tu me battes? Ah oui, une ânesse qui sauve un prophète, c'est drôle. Les animaux, un coq qui chante, puis qui réveille la conscience d'un apôtre. Une ânesse qui parle et qui épargne la vie d'un prophète. Des vaches qui savent le chemin, et nous. Et nous. Bien, je demande au Seigneur, dit Paul, que vous puissiez connaître les choses excellentes, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ et remplis de quelques fruits, du fruit de la justice qui est partie par nos efforts, par notre piété, par notre fidélité, qui est par Jésus-Christ. La seule chose, c'est de le laisser en nous. Laissez-le vivre en vous, laissez-le produire en vous tout son fruit, mais qu'il ait en vous la première place. Et le fruit sera par Jésus-Christ. Et ce qu'il montrera de vous, c'est l'œuvre qu'il a pu faire dans vos vies. Et ce sera à la gloire et à la louange de Dieu. Elle était longue, ma prière. Hein? Je m'excuse. C'est la prière de Paul, puis on la fait de nouveau, puis je pense qu'elle sera exaucée. Je voudrais tellement que vous soyez heureux et que vous ayez une bonne nuit, cette nuit, parce que vous avez écouté sa parole. Alors, mes amis, nous avons comme thème la vie chrétienne, un choix quotidien. Et ce que nous avons vu d'abord, c'est que cette vie chrétienne, c'était la vie de qui? Les jeunes. De Jésus, hein. Et nous avons vu ensuite que la vie de Jésus, c'était la vie de qui? Du Père. Et que cette vie du Père, c'était la vie éternelle, la vraie vie véritable. Et que cette vie, elle nous est offerte. Alors, comment la posséder? Est-ce qu'on l'a par notre naissance, parce que notre père et notre mère seraient des chrétiens? Est-ce qu'on hérite la vie éternelle par la naissance physique? Non. Nous naissons de la chair, et ce qui est né de la chair est chair. Et même si vous avez des parents chrétiens, vous n'avez pas la vie éternelle parce qu'ils vous ont baptisé ou parce qu'ils vous éduqueront dans le christianisme. Vous l'avez quand vous recevez vous-même le Seigneur Jésus par la foi. Pour avoir la vie, puisque la vie est dans le Fils, nous dit l'Écriture, il faut avoir le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors maintenant, ici, vous devez savoir, est-ce que vous avez le Fils? Est-ce que vous avez reçu le Fils dans votre cœur? Alors, si vous avez le Fils, vous avez la vie. Mais savez-vous ce que l'on apprend une fois qu'on a la vie? Une fois qu'on croit qu'on a choisi Christ, on n'a rien choisi. Qu'est-ce qu'on apprend? Que c'est lui qui nous a choisis. Et c'est ça qui est fantastique. Et c'est vraiment là qu'on voit ce qu'est la grâce, parce qu'on dit, mais comment est-ce que je puis être un enfant de Dieu? Mais il dit, c'est pas parce que tu m'as choisi, c'est parce que moi, je t'ai choisi. Et je voudrais souligner ce verset dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, dans la nuit où Jésus fut livré, c'est la vraie révélation qu'il fait à ses disciples qui pensaient, ben nous avons tout quitté pour le suivre, hein. Nous avons tout quitté, et ils pensaient qu'ils avaient choisi Jésus. Mais Jésus les détrompe, il dit non, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Verset 16, du chapitre 15 de Jean, vous pouvez le souligner, c'est un verset qui m'accompagne depuis ma conversion il y a plus de 50 ans. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Oh, c'est quelque chose quand on comprend tout à coup cela. Alors, qui c'est lui qui nous a choisi? Il nous a choisi pour nous rejeter après? Non, personne ne pourra vous ravir de sa main. Vous pouvez avoir des infidélités, vous pouvez avoir des moments difficiles, mais c'est lui qui vous a choisi. Et s'il vous a choisi, c'est qu'il veut poursuivre son œuvre en vous jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Celui, et c'est encore dans les Philippiens, au chapitre 1er, au verset 6, il est dit, « Je suis persuadé, dit l'apôtre Paul, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. » Est-ce que c'est moi qui rends l'œuvre parfaite? Non, c'est lui. Mais alors, laissons le Seigneur agir. Laissons le faire, ou, comme j'aime à le dire avec Marie, la mère bénie de notre Seigneur, laissons-nous faire. Parce que le secret de Marie, la mère de Jésus, quand l'ange lui a parlé, et que l'ange attendait sa décision, parce qu'il fallait qu'elle dise quelque chose, si elle acceptait de que Dieu fasse son œuvre en elle, et si elle devenait enceinte même du Saint-Esprit, qui allait le croire? Elle risquait la mort. Alors, l'ange ne la viole pas, mais l'ange attend pour répondre au Père. Et que dit Marie? C'est là, pour moi, la leçon suprême de Marie. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait, selon la parole. Voilà ce que vous ne devez jamais oublier au sujet de Marie. Marie vous donne un exemple, l'exemple des exemples. En tant que femme, je suis la servante du Seigneur. Être vraiment servante et serviteur du Seigneur, c'est pas faire des choses pour Jésus ou pour Dieu, c'est se laisser faire. C'est là tout le secret. Laissez-vous faire par le Seigneur. Abandonnez-vous au Seigneur. Qu'il me soit. Mais pour ça, il faut lui faire confiance. Il faut savoir qu'il nous aime. Si on sait qu'il nous aime, on lui fait confiance. On est tranquille. On est tranquille même si on ne comprend pas les voies du Seigneur à notre égard. Lui ne peut pas se tromper. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Mais ce que nous savons avec une absolue certitude, c'est que lui connaît, comme le dit Jérémie au chapitre 29, verset 11, « Je connais les pensées que j'ai à votre égard, ce sont des pensées de paix et non de mal. » Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il n'est jamais contre vous. Dieu est pour vous, Romains 8. Si Dieu est pour vous, qui sera pour vous? Et s'il n'a pas épargné son propre fils pour vous sauver, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, un petit peu, toutes choses avec lui? Ça rejoint le témoignage de notre sœur. Il vous donnera, s'il n'a pas épargné son fils, c'est quelque chose, hein? Alors comment est-ce qu'il pourrait nous donner moins après? Il nous donnera toutes choses avec lui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez. Si on marche, c'est parce que c'est lui qui nous fait marcher. Que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pas seulement que vous portiez du fruit, un certain nombre de fruits, mais du fruit qui demeure, jusque dans la vie éternelle. Pas seulement une apparence de fruit à un certain moment de l'année, mais du fruit qui arrive à maturité. Eh bien, c'est cela que le Seigneur veut dans chacune de vos décisions. Comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, la vie éternelle, cette vie du Père, elle est dans le Fils, et si nous recevons le Fils, nous recevons la vie, et puis nous apprenons ensuite que c'est lui qui nous a choisis. Parce que pour être perdu, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez faire quelque chose? Non, vous l'êtes. Vous êtes perdu, je suis perdu. J'ai rien à faire pour être perdu. Je suis né dans le péché. Je suis né de la chair, ce qui est né de la chair est chair. Et nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu si nous restons dans la chair. Alors qu'est-ce qu'il faut? Naître d'en haut, naître de l'esprit. Est-ce qu'on peut se faire naître, nous?
Non.
Vous avez fait quelque chose, vous, pour naître?
Non.
Non, vous êtes né. Bon. Eh bien alors, laissez le Seigneur opérer cette nouvelle naissance. Mais pour que cette nouvelle naissance s'opère, il faut que vous acceptiez, comme Marie, de mourir à votre vie. De laisser votre vie au Seigneur. Et le Seigneur prend votre vie, et qu'est-ce qu'il en fait? Et nous sommes en Jésus. C'est une vie nouvelle. Une vie qui sort de la mort. Vous êtes maintenant ressuscité en lui. Votre vraie vie, c'est la vie de qui maintenant? De Jésus. Le grain de blé est tombé dans la terre. Et de ce grain de blé qui est mort, il est sorti un seul grain de blé? Dans d'autres grains de blé. Et c'est vous qui êtes ces grains de blé qui sortaient de la mort de Jésus. En Jésus, vous avez la vie, mais pas en dehors de Jésus. C'est pourquoi Paul peut dire Christ est ma vie. En dehors de Jésus, il n'a pas de vie. Et il y en a qui croient, pour qu'il ait pu dire Christ est ma vie, il faut qu'il soit arrivé à un certain degré de spiritualité. C'est pas vrai. En dehors de Jésus, il n'avait pas de vie. Christ était la vie. En Jésus, Saul de Tarse était mort. En Jésus ressuscité, Paul était né à une vie nouvelle. Et son nom est un nom nouveau. Toutes choses sont nouvelles. Regardez l'apôtre Paul maintenant. Lui qui était le Saul de Tarse autrefois. Il y a un autrefois, puis il y a un maintenant. Maintenant qu'il a reçu le Seigneur, il est un enfant de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors, quand on a reçu le Seigneur, on est sauvé par grâce. Je n'avais rien à faire pour être perdu. J'étais perdu. Et alors, un homme qui est condamné à mort, bien que la peine de mort n'existe plus maintenant presque dans tous les pays, mais quand un homme était condamné à mort, qu'est-ce qui pouvait encore le sauver? La grâce. La grâce du président de la République, la grâce de la reine, la grâce du roi. Je ne sais pas si le roi était grave, mais enfin. Bon. Il a ce droit de grâce. Hein. Ben, la grâce, on l'offre à qui? À un juste? Non, à un condamné. Alors, s'il acceptait la grâce, il était sauvé. Il avait la vie sauvée. Eh bien maintenant, nous avons accepté cette grâce. Nous avons la vie dans le Seigneur Jésus. Et ce que je vous ai montré, et je voudrais souligner cela pour que vous l'ayez bien compris, parce que je ne voudrais pas qu'on aille plus loin sans avoir bien compris cela. Une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on est au Seigneur, c'est le choix qui commence. Je n'ai pas le choix pour être sauvé. J'ai à accepter, puis c'est tout. Sinon, je reste perdu. Alors, il me fait grâce. C'est pas de choix. Si je veux être sauvé, j'accepte. Si je veux rester perdu, j'ai pas besoin de faire encore des péchés. C'est pas la quantité de mes péchés qui me perd. Hein. Je l'ai dit souvent et je le redis. C'est pas la quantité de nos péchés, c'est la nature que nous avons. Alors, j'accepte cette grâce. Et maintenant, je laisse le Seigneur faire son œuvre de grâce en moi. Alors maintenant commence pour moi un nouveau chemin. Je sais qu'il y a deux chemins. Jésus le disait. Le chemin resserré, qui mène à la vie. Le chemin large et spacieux, où vous accomplissez vos désirs, vous faites ce que vous voulez. Mais quand on aime le Seigneur, bien lui, il accomplit aussi nos désirs. Hein. Le désir des justes, il est dit, Dieu l'accorde. Le désir des justes, Dieu l'accorde. Fais tes délices du Seigneur, comme il l'a été rappelé ce soir, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand nous sommes mis sur la même longueur d'onde que le Seigneur, alors nous avons les mêmes désirs. Et nous voyons des exaucements de prières merveilleux. Est-ce que nous avons une vie exaucée? J'étais très béni ce soir et très encouragé par le témoignage de notre sœur, parce que c'était un témoignage d'exaucement de prière. Et je me suis rendu compte que ce que j'écrivais quelquefois était vrai, était confirmé par le témoignage de notre sœur. Plus on va de l'avant, moins on fait de demandes personnelles. Parce qu'on sait que le Seigneur s'occupe de nous. Et il s'occupe tellement de nous que nos prières sont surtout des actions de grâce. Il nous comble. Et au fond, on se dit, mais moi, j'aurais pas osé demander ça, mais il me le donne. On n'aurait pas demandé cela, puis il nous le donne. Alors, quand on s'en remet au Seigneur, il nous soigne beaucoup mieux que nous nous soignons nous-mêmes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, si vous vous en remettez au Seigneur. Mais si vous commencez d'écouter ce que les hommes vous disent, les théories humaines, vous êtes perdus. Et vous manquez la plus grande des bénédictions. Faites confiance au Seigneur. Je me souviendrai toujours d'un jour où, en Suisse, dans une ville de montagne où j'étais aumônier des tuberculeux, je devais partir dans un moment très difficile pour ma vie familiale, et j'étais là sur mes genoux, et j'ai entendu le Seigneur me dire, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Alors quand on entend une parole comme ça dans notre cœur, il faut toujours contrôler. Est-ce que c'était biblique, ça? C'était peut-être pas dit dans les termes exacts de la parole. Mais est-ce que je pouvais trouver dans l'Écriture quelque chose qui me confirmait que c'était une prophétie du Seigneur? Cette parole. Occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Fais ma volonté sans te soucier de quoi que ce soit. Toutes les autres choses. Alors vous vous levez, vous savez que c'est le Seigneur qui vous a parlé, puis vous marchez. Puis vous n'êtes pas déçu. Et quand vous revenez, vous voyez que le Seigneur vous a comblé. Alors, cela multiplie les actions de grâce. Et vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui rend grâce au Seigneur, les gens s'arrêtent. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce que vous étiez heureux? Mais j'ai un bon père. Vous avez un père? Ben oui. Et qui est-ce? Vous pouvez parler de votre Père des cieux. Vous avez quelque chose à dire et quelque chose d'actuel. C'est pas simplement des récits bibliques d'autrefois que vous avez appris par cœur. C'est pas de l'histoire sainte que vous racontez. C'est de l'histoire d'aujourd'hui. Parce que vous êtes placé devant un choix quotidien. Vous avez négligé ce que le monde voulait pour vous parce que le monde vous montre toujours le chemin large. Ah, si vous prenez ce chemin large, vous aurez vos 100 000 dollars. C'est ça. Au bout du chemin large, il y a 100 000 dollars. Non, il y a la perdition. Et vous savez, je ne sais pas, là, vraiment, je crois que l'Esprit de Dieu travaille, parce que notre sœur a souligné toutes sortes de points que j'aurais voulu vous parler cet après-midi, puis je me sentais retenu. Elle a même parlé du bien-être social. Je comprends qu'on puisse être sur le bien-être social. Mais je comprends aussi que si le Seigneur te montre autrement, tu feras autrement, qu'il y a le bien-être paternel, qui est un autre bien-être. Et si, par exemple, tu es jeune encore, et que tu cherches du travail, on est en temps de crise aujourd'hui, mais comment veux-tu être béni, comme jeune homme, ou comme jeune fille? Oh ben, il y a l'État maintenant, il y a des impôts. Alors, il y a le bien-être social. Je trouve pas de travail, je me mets sur le bien-être social. Non, je cherche du travail. Ou tu dis, ça vaut pas la peine, ce qu'ils vont me payer, je l'ai au bien-être social. Alors, j'aime autant être sur le bien-être social. Ben, non! Non! Et non! Travail. Même si c'est un salaire comme cela. Parce que tu as un témoignage. Et le Seigneur te bénira. Et il te donnera plus et mieux. Parce que prendre ces habitudes-là, de se mettre toujours sur le dos des autres,
Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Vous direz, mais vous allez dur, vous êtes dur. Non, ce n'est pas vrai. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Là, nous sommes toujours débiteurs. Mais si les chrétiens comprenaient cela, que le Seigneur leur a donné le travail aussi, si tu as la santé, c'est n'importe quoi, même pour un salaire minime, mais tu as du travail. Et si le Seigneur voit que tu fais cela avec fidélité, il te donnera plus. Je n'ai jamais vu le Seigneur laisser quelqu'un dans la misère s'il s'attend à lui. Mais il veut éprouver votre foi. Ayez un geste de foi. Vous dites, mais les autres m'ont dit, mais non, au contraire, parce que si je suis du bien-être social, j'ai du temps pour le Seigneur. Ça, c'est l'astuce du diable. J'ai du temps pour le Seigneur. Je ne dis pas que je ne bénis pas à Dieu de ce qu'il y ait le bien-être social, et je pense que plusieurs doivent en bénéficier. Mais vous qui avez encore des possibilités, vous qui êtes jeunes, je vous en supplie au nom du Seigneur, suivez les traces de Jésus. Discernez qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui peut plaire réellement au Seigneur. Quand vous allez évangéliser, puis qu'on vous dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça le bien-être social. Quand c'est paresseux et qui veut servir le Seigneur, puis qui veut nous évangéliser, qui veut nous faire la morale. Vous comprenez ça? Votre témoignage n'aura pas de puissance. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je pourrais être sur le bien-être social, mais j'ai accepté plutôt une position très misérable, mais je suis heureux, là, de faire au moins quelque chose de mes mains. Je travaille. Eh bien, votre parole, elle aura beaucoup plus de force. Et votre témoignage sera en bénédiction. Et vous verrez du fruit dans votre témoignage. Voilà. Des choses, ça a été dit, et c'est pour ça que je le redis, parce que notre sœur, on lui a offert ça d'abord, hein. Et puis, elle a trouvé qu'il y avait une autre position. Vous voyez, il y a deux chemins, et vous êtes appelé à choisir. Il y a deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est ou Dieu, ou maman. Et qu'est-ce que c'est maman? C'est l'argent. Hein? C'est ce bien-être. C'est ce qui vous rassure quotidiennement. Mais vous ne pouvez pas avoir cette assurance quotidienne, puis en même temps la grâce et le secours de Dieu. Mais si vous êtes privé de ce secours humain, le Seigneur est dans l'obligation de vous aider. Et il accomplit toutes ses obligations. Il a dit qu'il ne délaisserait jamais. Je n'ai jamais vu le juste cherchant son pain ni sa semence dans les pains. Je n'ai jamais vu le juste avoir faim. Bah, détruisez votre Bible si ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je n'ai jamais vu le juste avoir faim, ni sa semence cherchant du pain. Deux maîtres, ou Dieu ou maman. Et vous savez, il a dit, ne vous mettez pas en souci. Et c'est pour moi, un jour, le Seigneur m'a fait comprendre ce verset. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il est dit d'abord, ne vous mettez pas en souci pour votre vie. C'est pourquoi je vous dis, nul ne peut servir de maître. Quand on se met en souci, c'est qu'on sert déjà deux maîtres. On pense qu'on peut servir deux maîtres. C'est qu'on cloche des deux côtés. Et vous avez entendu cela. On a vu Moïse dire, choisis la vie. Il y a deux chemins. On a entendu Josué dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a Dieu, puis il y a maman. Jésus dit, il y a deux maîtres. Bon, alors, vous ne pouvez pas servir l'un et l'autre. Qui voulez-vous servir? Le Seigneur. Maintenant, il y a deux positions. C'est Élie qui dit ça. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Vous n'avez pas une marche qui honore le Seigneur. Eh bien, maintenant, j'aurai une marche qui honore le Seigneur. J'entrerai dans les pas du Seigneur. Et le Seigneur, il pourvoira
jusqu'à quand clocherez-vous des deux titres? Si l'Éternel est Dieu, est-ce que vous croyez que l'Éternel est Dieu? C'est une question de foi. Alors, s'il est Dieu, est-ce qu'il peut vous laisser manquer de quelque chose? Est-ce qu'il peut être un mauvais père, mes amis? Quelle que soit votre situation matérielle, parce que j'entre dans la vie pratique. Est-ce qu'il va vous laisser manquer d'un loyer, d'un logis? Il vous donnera ce qui est convenable. Mais vous apprendrez, comme Paul le dit, j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. Je sais avoir faim, mais je sais aussi être dans l'abondance. J'ai appris à être content de ce que le Seigneur me donne. Et cela, je vous le disais en terminant la réunion de cet après-midi, c'est chaque jour. Et j'aimerais que vous repassiez dans vos cœurs ces chaque jour. Chaque jour, vous vous tenez à ses portes pour veiller, pour entendre ce qu'il vous dit. Proverbe 8, verset 34. Chaque jour, vous comprenez que vous avez apporté votre croix. Que c'est ça, suivre le Seigneur. Luc 9, verset 23. Chaque jour aussi, vous apprenez qu'il faut mourir à certaines choses. Mais comme vous vous souvenez que quelqu'un est mort pour que vous, vous viviez, combien cette mort est douce. Seigneur, oui, je veux mourir à certains désirs. C'est comme ça qu'on a la délivrance. Comment pouvez-vous être délivré, par exemple, du tabac ou de l'alcool? Vous avez vu un mort ivre? C'est rare. Ivre-mort, oui. Mais un mort ivre, c'est pas tout à fait la même chose. Il ne boit plus le mort. Il est vidé. Vous avez vu au salon funéraire, j'ai vu au salon funéraire des gens qui mettaient leurs lunettes. Enfin, on leur avait mis leurs lunettes. Ça, je l'ai vu au salon funéraire. Je ne sais pas pourquoi. On aurait pu les donner à l'armée du salut parce qu'ils font des échanges pour les vivants. Enfin, je ne juge personne, hein. Vous aimez le mort en lunettes. Non, mais il y a des situations qui sont drôles. Hein. Mais vous avez vu le mort avec sa cigarette? Vous êtes allé lui dire qu'il aimait tellement fumer, qu'il en prend encore une. C'est la dernière avant qu'on ferme le cercueil. Dernière cigarette avant la fermeture du cercueil. C'est ça? Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous le libérez. Bouge pas. Mais si on est vivant, oh, la petite cigarette, elle nous domine. Et regarde comme je suis belle. Puis maintenant, il y a tellement de choses pour enlever les taches aux dents. Je ne sais plus quel est le truc médicamenteux là que tu fais. Hein? Topol, oui, Topol. Oui, le Topol. Ça va besoin de s'en faire. Pour venir à une étude biblique, tu te laves les dents avec Topol. Il dira, fume plus. Regardez tes dents, il n'y a plus de taches. Topol, vous avez mis votre masque. Pour venir à la réunion. Grâce à Topol. C'est plus grâce au Seigneur. Quelle misère. Alors, mourir chaque jour, c'est ça la délivrance. Puis, examiner chaque jour les Écritures. Quatre examens de chaque jour. Hein. Acte 17, verset 11. Puis, s'exhorter aussi chaque jour. Hébreux 3, verset 13. Puis se rassembler aussi chaque jour, hein. Se retrouver, aimer la présence, accompagner des chrétiens, et puis chaque jour, le bénir. Oh, c'est beau ça, hein. Je bénirai Dieu chaque jour. Chaque jour, vous avez quelque chose à dire de neuf au Seigneur. Je te bénis, non pas parce que je tourne la manivelle, puis ça revient le mot bénédiction, hein. Je te bénis Seigneur. Non. Je te bénis parce que tu me bénis dans ma vie personnelle. Je te loue parce que tu me bénis dans ma vie conjugale. Si j'ai une vie conjugale, il y a des difficultés dans la vie conjugale. Nous en avons tous des difficultés. Nous avons tous des mauvais jours dans la vie conjugale. Mais nous pouvons venir au Seigneur. Puis lui demander, bien donne-moi de discerner ce qui est meilleur. Nous pouvons dire, mais moi je l'aime plus. Sylvie peut vous faire l'aimer ou pas. Il peut vous remettre un amour neuf. Voyez-vous, quand on revient au Seigneur, tout commence avec lui. Mais si vous n'allez pas au Seigneur, ça suit. J'ai été impressionné par cela. Dieu, il est toujours au commencement. Mais si vous ne revenez pas au commencement, si vous ne revenez pas à Dieu, vous ne recommencez pas. Vous suivez. Au commencement, Dieu. Alors revenez à Dieu, si vous allez recommencer. Vous avez pu vous tromper, marcher mal pendant X années. Si vous revenez à Dieu, ça commence. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Avec Dieu, il y a toujours possibilité de recommencer. Je vous redonnerai les années qu'ont mangé la locuste, les lièvres, la sauterelle. Je vous les redonnerai. C'est un verset que j'aime beaucoup dans Joël, chapitre 2, verset 25. Je vous redonnerai les années perdues. Vous dites, mais j'ai gâché des années. Mais que vous les redonnez, ces années-là. Je vous les redonnerai. Quand vous retournez à Dieu, ça recommence. Pas comme avant. Tandis que si vous n'allez pas à Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ça suit. Vous suivez, puis vous suivez toujours plus bas. Vous allez toujours plus loin. Eh bien, comprenez qu'il est question de revenir à Dieu. Donc, des changements dans notre vie personnelle, des changements dans notre vie conjugale, des changements dans notre vie familiale avec nos enfants, ça va pas. Ça va pas avec nos enfants. On vous dit, c'est les enfants des derniers jours. Ce sont vos enfants. Dites d'abord, ce sont mes enfants, avant de dire, c'est les enfants des derniers jours. Alors on se console, on dit, oh, les enfants des derniers jours, ils seront arrogants, ils seront ceci, désobéissants à leurs parents. Donc mes enfants sont les enfants des derniers jours. Qui c'est qui les a mis au monde, ces enfants des derniers jours? C'est moi. Mais qu'est-ce que j'avais à enseigner à ces enfants des derniers jours? Les enseignements des premiers jours. C'est beau ça, hein? Si vous gardez l'enseignement qui était au commencement, et si vous donnez à vos enfants cet enseignement dont vous avez vécu vous-même, bien vos enfants arriveront à vous dire, tu sais papa, quand j'ai fait des études, il y a eu des moments où réellement, je ne croyais plus à la Bible, je ne lisais plus la Bible. Je doutais de tout, mais il y a une chose dont je ne pouvais pas douter. C'est de la foi de papa et de maman. Hein? C'est ça qui m'a tenu. Et on revient après toutes les questions. Parce que de cela, ils ne peuvent pas douter. Et notre sœur nous disait qu'elle avait ses enfants. Ben, je pense bien que quand même ses enfants peuvent dire le Dieu de maman, le Dieu de papa, c'était le vrai Dieu. Parce qu'il ne nous a pas laissés et il ne nous a pas abandonnés. Et c'est ça le témoignage. Demandons au Seigneur de sanctifier notre vie de parents et que nos enfants voient que nous aimons le Seigneur. Parce que tout est là, et c'est comme ça que je terminerai demain, Dieu voulant. Au fond, tout est là quand nos enfants voient qu'on aime le Seigneur. Parce que lui nous a aimés. Et si nous l'aimons, nous, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Et alors aussi, dans le choix d'une compagne, vous serez guidé, vous serez conduit, Seigneur, mais tu sais quelle est ma situation? J'ai besoin d'une aide qui me corresponde. Alors, cette aide, je la vois là, mais est-ce que c'est celle-là vraiment? Elle me correspond aujourd'hui, mais demain, est-ce qu'elle me correspondra encore? Ça, j'en sais rien. Dans 5 ans, est-ce qu'elle me correspondra encore? Dans 20 ans, est-ce qu'elle me correspondra encore? Mais Seigneur, toi, tu le sais. Alors, je te laisse. Choisi. Vous dites, si c'est le Seigneur qui choisit, il va mal choisir. Elle ne sera pas belle si c'est le Seigneur. Vous ne l'y connaissez pas. Le Seigneur, il s'y connaît en beauté. Vous croyez? On peut se confier au Seigneur. Puis il renouvelle la beauté. Hein. Parce que la beauté, ça se fane. Et il vous montrera une autre beauté. Sa beauté à lui. J'aimais tellement quand François chantait avec sa fille à la musique et notre frère Rémi, oui. Qu'est-ce qu'il chantait? Vous vous en souvenez? Te ressembler, Seigneur. C'est beau ça. Te ressembler, Seigneur. avoir une vie qui lui ressemble. C'est possible. Avoir un foyer où le Seigneur est honoré, où le Seigneur a la première place. Puis comme je vous le disais aussi, le choix d'un lieu, quand vous devez quitter un endroit pour aller dans un autre, est-ce que vous faites un sujet de prière ou vous dites, oh non, non, moi je choisis, ça sera mon coin, ce sera mon quartier. Est-ce que c'est le quartier que le Seigneur a choisi pour vous? Est-ce que c'est le quartier où vos enfants seront avantagés? Est-ce qu'ils seront près des enfants de Dieu? Tout cela, mes amis, ça a une influence. Et vous avez à faire entrer le Seigneur dans ses choix quotidiens. Puis alors dans votre vie sociale aussi. Dans votre vie sociale, je suis convaincu que le Seigneur peut vous donner un travail qui corresponde à vos aptitudes. C'est vrai ou c'est faux? Vous savez, quand on se convertit au Seigneur, moi j'ai connu des gens qui s'étaient convertis, qui avaient une occupation, même bien rétribuée, mais qui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas glorifier le Seigneur une fois convertis dans ce travail-là. Ils ont essayé de témoigner, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas, et ils ont changé d'occupation aussi. Et le Seigneur les a bénis. Même s'ils ont commencé avec un salaire moindre. Le changement, mais c'est quelque chose de radical qui change aussi peut-être notre occupation. Mais le Seigneur peut vous donner une occupation où vous serez un témoin. Parce que si vous faites mal votre travail, est-ce que vous pouvez évangéliser? Je pense pas. Moi, je pense que le premier témoignage chrétien, il se trouve dans le travail que l'on fait. Je pense pas que Jésus charpentier livrait du mauvais travail. Est-ce que vous voyez Jésus apportant une chaise ou un pied branlé? Non, il a dû apporter les choses d'une façon parfaite. C'était fait, c'était fini. Mais moi je crois qu'il y a là d'abord ce témoignage chrétien. Et Jésus a pris le métier justement de un métier manuel pour bien nous montrer cela. Il aurait pu être l'intellectuel. Non, il a subi le mépris des intellectuels, mais le travail qu'il faisait, on ne pouvait rien dire de lui. Il faisait tout à merveille. Il l'a dit, il faisait tout à merveille. Mais c'est ça, le choix quotidien. C'est Jésus qui choisit en nous, c'est Jésus qui vit en nous, c'est Jésus qui aime en nous. Alors je vous disais que je terminerai simplement pour vous montrer ce que c'est que cette vie chrétienne. C'est une vie de bonheur. Mais je dirais tout de suite, un certain bonheur. Dans les béatitudes, c'est le bonheur de qui? Dont il est parlé. Bienheureux et pauvre. C'est un bonheur de pauvre. Vous avez remarqué ça? C'est un certain bonheur, c'est pas n'importe quel bonheur. Bienheureux les pauvres. Pas simplement matériellement, mais ceux qui sentent qu'ils n'ont rien en eux-mêmes et qui s'attendent au Seigneur. Parce que le pauvre, il doit s'attendre au Seigneur. Mais dans tous les domaines, c'est un certain bonheur, le bonheur des pauvres, le bonheur des affligés, parce qu'ils seront consolés. Relisez les béatitudes et vous verrez, vous comprendrez de quel bonheur on parle quand on accepte la vie de Jésus. C'est pas n'importe quel bonheur, c'est un certain bonheur. Puis, la vie chrétienne, c'est une certaine écoute. J'ai dit qu'il fallait écouter. Et il a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Luc 8, verset 18. Il a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Rien de secret qui ne doit être mis à nu. Alors, nous écoutons la parole. Et il y a certaines choses que nous ne faisons plus. Une certaine écoute. On écoute la voix des hommes? Non, la voix du Seigneur. Donc, on a une oreille pour Dieu, une certaine écoute. Notre oreille écoute, non pas comme on écoute les choses du monde, on écoute les choses de Dieu d'une autre manière.
ça nous donne aussi
un certain regard sur les choses.
Les gens du monde, ils regardent, puis ils disent ceci, cela.
Mais non, on a un autre regard. C'est un certain regard. On ne voit plus les choses comme avant. Avant, nous étions des aveugles. Mais maintenant, nous voyons. Jean 9. Et Jésus dit, je suis venu pour que ceux qui voient, ne voient point, deviennent aveugles. Et pour que ceux qui ne voient point, voient. On a un autre regard, on a une autre vision des choses. Avant, je voyais les choses de cette manière. Maintenant, je les vois tout autrement. On a un autre regard, mais un certain regard. Puis c'est aussi un certain langage. On ne parle plus comme avant. Quand on est vraiment chrétien, bien, on ne parle plus comme avant. Et je voudrais dire ça à mes bien-aimés Québécois. Il y a beaucoup de paroles qui doivent changer. Parce que vous avez reçu toutes sortes d'habitudes. Vous n'en pouvez rien, c'était des mauvaises habitudes. Moi, j'étais effaré, quand je suis venu au Québec, d'entendre les Québécois sacrés. Moi, je savais ce qu'on disait en France. Mais on se contentait de faire l'être. Tandis qu'au Québec, on passe tout ce qu'il y a dans l'église pour sacré. Hein? C'est tout avec les choses saintes qui devraient être saintes consacrées au Québec parce qu'on a été habitué à ce langage. Même vous savez que nous les protestants en Europe, on ne disait pas le Christ, on disait Christ simplement. Christ a aimé l'église. Puis quand on dit cela sans dire le Christ, comme on doit dire en français, eh bien, il y en a qui croyaient consacré. Quand on disait Christ, simplement, Christ a aimé l'Église sacre. Mais ça, parce qu'on ne disait pas le Christ. Non, sacré pas, c'était Christ. Notre sauveur, hein.